À quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler de la fermeture annoncée de La Poste, avenue de la Libération. Ce sera en seconde partie d'émission, mais on va aussi parler vélo et ce en compagnie de Jean-Luc Guichard qui est porte-parole du collectif Vienne des usagers vélo. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour quelque chose qui vous a interpellé au niveau national. C'est le renoncement de l'État au financement du plan Vélo 2. Alors, on va en parler, peut-être d'abord préciser ce qu'est en substance le plan Vélo 2.
Alors, le plan Vélo 2, c'est un projet d'Elisabeth Borne. Il venait tout juste d'être décidé, hein, ça date d'il y a un an. Il avait pour objet, il y avait plusieurs axes, mais il y avait notamment le financement des aménagements cyclables hors des villes, en fait. Et sur ce point-là, il y avait un besoin énorme. Il y avait toute une partie autour de l'éducation à vélo. Alors, là aussi, il y a des choses à faire. C'est un projet à long terme, donc qui allait jusqu'en 2027. Là, c'est vraiment une bonne manière de travailler. Et puis un an après, en fait, il serait menacé, ce plan-là, ce qui est vraiment dommage parce que, en fait, ce plan vélo, je dirais qu'il agit sur plein de registres en même temps. Et de notre point de vue, c'est pas un coût, c'est plutôt une économie.
Alors effectivement, bon, on sait que le gouvernement essaie de faire des économies un petit peu partout, hein, actuellement. Donc plusieurs choses sont menacées. Concrètement, quelles conséquences ça aurait cet abandon dans le développement, notamment des infrastructures?
Alors, ça touche pas uniquement le développement des infrastructures, mais le premier point, c'est la question de la sécurité des usagers vulnérables. Et alors là-dessus, on est vraiment sur l'actualité. Il y a eu une série d'accidents où il y a eu des morts de cyclistes. Et on a vu, à titre d'exemple, il y a eu un mort à Paris. Il vient d'avoir une personne, là, il y a 15 jours, qui est mort à Limoges. Et on voit bien que le vélo, les morts à vélo, ils sont autant en ville, ils sont qu'à la campagne. Et ça touche tout type de population. Et il y a un vrai souci autour de ça. Alors évidemment, les aménagements cyclables sont un des éléments du dossier. Dans le plan vélo national, je dirais, d'Elisabeth Borne, il était aussi question de sécurité routière et de modifier le code de la route. On voit bien que tout ça se touche, entre guillemets. Il y a une mission nationale qui vient d'être nommée, en fait, par le ministre des Transports et qui doit travailler sur la sécurité routière et les usagers vulnérables. Donc on est vraiment sur deux sujets qui sont interdépendants.
Et alors, dans la Vienne, est-ce qu'on constate aussi une hausse des accidents pour les cyclistes?
Alors, c'est compliqué de répondre à cette question de manière aussi précise. Et puis, et surtout pas par des statistiques, en fait, puisque les statistiques seraient assez faibles.
Oui.
Et du coup, ça ne serait pas forcément significatif. Il y a des soucis dans la Vienne comme ailleurs, et il y a notamment dans la Vienne un manque important, en fait, d'infrastructures cyclables en dehors des grandes villes, en fait, hein, des deux villes principales que sont, Poitiers et Châtellerault. Pour le reste, tout reste à faire. Donc là, effectivement, les cyclistes sont potentiellement en danger. Le problème autour du vélo, c'est qu'en cas de choc, le pronostic, il est évident, c'est la personne à vélo qui va être blessée ou qui risque d'être tuée. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut être attentif aux cyclistes.
Et puis on voit que là, en ville, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être créées. Par contre, en zone rurale, les cyclistes restent vraiment vulnérables.
Voilà, c'est ça. Ils restent vraiment vulnérables. Alors, c'est une question d'aménagement, c'est une question de ralentissement de vitesse lorsqu'on traverse les bourgs, les hameaux, etc. Parce que là, c'est effectivement une voiture qui heurte un cycliste ou un piéton, vite, il y a des dangers. C'est aussi toute une question, je dirais, d'attention aux autres. Ce que disent les gens quand ils ont eu des accidents, c'est « je ne l'ai pas vu ». Il y a deux manières de s'attaquer à la question. C'est se rendre visible. Alors là-dessus, les associations d'usagers ont fait tout un travail de prévention, en fait. Et actuellement, il y a des opérations cyclistes brillées. Il y en a une menée par nos copains de Vélocité 86 à Poitiers la semaine dernière. Il y en aura une qui sera faite par Vélotaf Grand Poitiers. Alors, elle a lieu tout près d'ici. C'est le jeudi 21 novembre. Au Carrefour Rébeillot, en fait. Les bénévoles de l'association donneront des kits gratuits et puis en plus, on pourra prendre des pâtisseries et du thé. Donc ça se passe en fait à 18h au Carrefour Rébeillot. Voilà. À Châtellerault, on va faire ça également bientôt. Ça va être le... côté cycliste, donc faire attention, être visible. Alors c'est être éclairé, c'est les gilets fluorescents quand les conditions de visibilité sont réduites, etc. Et puis de l'autre côté, il y a les automobilistes, et les automobilistes, il faut qu'ils prêtent une attention aux cyclistes, en fait. Et ça, c'est toute une série de comportements qu'il faut adapter. Et jusque-là, il n'y avait pas beaucoup de vélos sur la route. Et donc, on se retrouve dans des conditions un peu différentes. Maintenant, il faut rouler avec, des usagers de types différents sur la route. Il y a parfois des aménagements, il n'y a parfois pas d'aménagements. Quand il n'y a pas d'aménagement, il faut faire attention aux autres. Le sujet des accidents, il est souvent attaqué sous l'angle des conflits, en fait. Alors, au quotidien, moi, je fais du vélo. Alors, j'habite la campagne, à une douzaine de kilomètres de Châtellerault. Et je dirais qu'à 90%, ça se passe très bien. Et les gens sont super sympas en voiture. Les gens qui habitent la campagne, souvent aussi, ils vont parfois faire du vélo, parfois faire de la voiture. Il n'y a pas cette frontière-là et ce conflit-là de manière systématique. Il existe, hein, parfois, il faut pas le nier. Et à côté de ça, il y a beaucoup, je dirais, de négligence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un téléphone en même temps. 40% des automobilistes regardent leur téléphone en roulant. C'est les stades de l'ONISER, sécurité routière. Donc, tout ça, on prend des risques avec la vie des autres. On parle assez souvent d'estime de soi. Je pense qu'il faut aussi renforcer l'estime qu'on a des autres et l'attention qu'on a aux autres. En fait, ça, c'est une des clés.
Et alors, justement, quelles sont les mesures les plus importantes de ce plan vélo que vous voudriez voir mises en œuvre, qui risquent d'être là abandonnées pour éviter cette augmentation des décès, des accidents des cyclistes?
Non, mais le plan vélo, oui. Il était établi. Alors, il y a eu très bons articles. Il y en a eu un dans Mediapart. Oh. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet. Il y a vraiment toute une série de mesures qui étaient là, en fait. Nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est dire maintenez ça, vous allez faire des économies. Alors, vous allez faire des économies sur la sécurité et des usagers. Là-dessus, on ne peut pas trop négocier. Les gens, il faut les protéger. Vous allez faire des économies sur la décarbonation de la France. Alors, il y a une semaine, le gouvernement affirmait sa volonté, en fait, d'aller vers les objectifs zéro carbone pour décarboner la France. Votre voix compte. Donc, c'était un engagement fort. Il y a l'Institut de l'économie pour le climat qui expliquait il y a un an, en fait, qu'il fallait y consacrer 12 milliards pour cet objectif zéro carbone. Et 67%, c'était sur la mobilité. Et dans ces 67%, il fallait mettre 3 milliards sur le vélo. Donc, globalement, on est déjà sur l'investissement vélo, en fait, si on va aller sur le zéro carbone. Ça fait partie, en fait, de la solution.
Ce n'était pas ce qui était prévu pour le plan vélo 2, hein, ces 3
Comment
milliards. Le plan vélo 2 ne prévoyait pas 3 milliards.
Non, mais il y avait d'autres choses qui étaient prévues. Et alors, le plan vélo 2 prévoyait 2 milliards, pour être précis, mais il y avait un certain nombre de mesures qui s'accompagnaient. Et donc, globalement, ce que disait aussi Elisabeth Borne dans le plan vélo 2, c'est l'engagement de l'État qui était à 2 milliards. Mais c'était pour accompagner les investissements des collectivités. Alors, les collectivités, par ailleurs, en fait, se mobilisent. Elles viennent de lancer, en fait, alors, il y a deux organisations, Vélo et Territoire et le club des villes et territoires marchables et cyclables, qui ont lancé en fait une pétition en faveur du plan vélo. Ça s'appelle Appel soutien plan vélo et marche. Et là-dessus, hein, pour l'instant, il y a déjà 300 collectivités qui ont signé, il y a 450 élus qui signent, et ça vient juste de débuter.
Donc, Grand Poitiers a signé d'ailleurs.
Grand Poitiers a signé, Châtellerault a signé, donc, on travaille là-dessus au niveau du collectif, et on est en contact avec des élus et des collectivités, et je pense que c'est qu'un début, en fait. Hein. Le troisième point, parce que les arguments, on n'en manque pas sur ce sujet-là. Alors, le troisième point, c'est le niveau de vie des citoyens. Alors, le niveau de vie des citoyens, parce que l'État doit faire des économies, mais nous, il suffit de demander aux gens dans la rue. Enfin, ils sont directement confrontés par ce problème d'économie au quotidien. Ils ont des fins de mois difficiles, etc. Et le vélo, c'est une source d'économie. Alors, il faut oublier le mythe du, je dirais, bobo qui fait du vélo, etc. Le vélo, c'est avant tout un moyen de locomotion populaire. C'est les gens qui ont le moins d'argent qui font du vélo en premier. Certains, ils n'ont même pas de voiture. Et donc, quand on roule à vélo, on fait des économies. Mais pour rouler à vélo, il faut des infrastructures adaptées. Donc, on est sur, une politique à long terme. Et faire des économies, c'est mener une politique à long terme.
Et puis, il y a des questions de santé aussi.
Exactement.
Faire du vélo, ça maintient en forme. Plein d'arguments, effectivement. Comment vous allez mobiliser? On voit que les collectivités, là, ont commencé à signer des pétitions. Comment on mobilise aussi les usagers, peut-être, à soutenir ce plan vélo?
Alors, toutes nos actions on est à fond dans l'action par rapport à ce sujet-là. Sur Châtellerault, à titre d'exemple, samedi, on a fait un rassemblement pour l'homme en bleu, en fait, qui était ce personnage. On a tous été émus, en fait, par la mort de ce monsieur qu'on ne connaissait pas.
À Limoges. Hein.
À Limoges, voilà. Hein, c'était un retraité qui faisait du vélo depuis tout le temps et qui se baladait dans la campagne avec son habillé en bleu, en vélo. Voilà. On a rassemblé du monde autour de ça, et puis on a rappelé effectivement toutes nos priorités. Et il y avait un ensemble d'usagers. Il y a des usagers, vous parliez tout à l'heure d'accidents, ils sont venus puis ils ont témoigné, en fait, eux-mêmes des accidents qu'ils avaient eus ou des peurs qu'ils avaient eues, en fait. Donc effectivement, on cherche à rassembler autour de ça. Le rôle de la presse, je vous remercie de nous inviter aujourd'hui, le rôle de la presse par rapport à ça est déterminant. Ce qu'on veut, c'est sortir, en fait, de nos chapelles, c'est parler à tout le monde, et le vélo, ça concerne tout le monde. Donc on a hâte d'aller, parler sur d'autres médias de cette situation-là. Et puis de l'autre côté, les élus, on est en train de les contacter, on discute avec eux. On a globalement de bons rapports avec les élus et puis on essaie effectivement de se rassembler autour de ça.
Donc merci beaucoup Jean-Luc Guichard, porte-parole du collectif Vienne des usagers vélo, d'être venu nous parler donc de vos inquiétudes par rapport à ce financement du plan Vélo 2 dans le cadre des discussions budgétaires. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Letter to You, c'est le premier album solo du musicien belge Boris Zeebroeck sous le nom de Bolis Poupoule, et c'est sorti cette année, c'est entré directement dans le classement de notre réseau de radio, le Top Ferra Campus.
My heart is in my throat. My eyes filled with tears. This is where you were born 59 years ago.
De transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
Et on accueille maintenant Sylvie Bachelier, qui est présidente du comité de quartier Vivre à Poitiers Sud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler d'une inquiétude, vous aussi, que vous avez. C'est celle de la fermeture du bureau de poste avenue de la Libération. Alors, vous avez appris ça en mai. C'est tombé un peu comme un coup de massue.
Tout à fait. Les habitants ont appris ça via la Nouvelle République, hein, un article qui date du mois de mai. Et puis, spontanément, des membres du comité se sont adressés à moi mais également à d'autres en disant « il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc c'est vraiment venu, c'était un cri du cœur spontané. On a jugé que ce n'était pas uniquement au comité de s'emparer de ce sujet-là. Nous avons ouvert donc une première réunion à tous les habitants du quartier qui voulaient bien venir. Du coup, s'est créé comme ça un collectif, on va dire, où il y a donc des membres du comité, des habitants de Poitiers Sud, mais également des gens qui habitent Saint-Benoît ou Vouneuil-sous-Biard, etc. Et puis des syndicats aussi, hein, qui sont venus nous prêter main forte.
Donc d'abord première réunion et ensuite déjà des mobilisations.
Alors la première réunion a permis d'organiser une première mobilisation fin juin, une mobilisation qui s'est faite sur le site de ce bureau de poste. Alors on a l'habitude de dire Poitiers Libération. C'est une toute petite erreur géographique puisqu'en fait c'est situé sur l'avenue du 8 mai 45. Mais voilà.
Oui, c'est le prolongement.
C'est le prolongement et puis dans la tête des gens, c'est Poitiers Libé. Bon, ce bureau de poste est donc situé dans la galerie marchande du Super U, voilà, situé à Poitiers Sud. Donc, on a fait une première mobilisation le 27 juin qui réunissait environ 250 personnes. Il y a eu des élus qui se sont associés. Bon, cette mobilisation avait, on va dire, un caractère un petit peu politique puisque ça tombait au moment des élections législatives. Donc, toutes les couleurs politiques ont essayé un petit peu de s'emparer du sujet et d'influencer les choses. Au final, rien n'a changé. Bon, bien que nous remercions évidemment la présence de tous les élus et des syndicats, etc.
Donc vous vous êtes remobilisé dès la rentrée.
C'est ça. Alors, évidemment, les vacances scolaires, ça marque un temps de pause. À la rentrée, nous avons fait une deuxième manifestation, toujours au même endroit. Nous avions également invité la pluie, qui était bien présente ce jour-là. Néanmoins, nous étions encore autour de 200 personnes et les gens ont pu s'exprimer, dire pourquoi ils voulaient garder leur bureau de poste. Et suite à cette manifestation, nous nous sommes encore réunis, nous faisons à chaque fois un petit bilan, nous réfléchissons aux actions que nous pouvons faire et nous avons fait une troisième mobilisation début novembre devant la poste centrale Poitiers Hôtel de Ville.
Alors pourquoi les habitants de Poitiers Sud et donc des communes environnantes sont-ils si attachés à ce bureau de poste qui serait transformé en relais poste en fait?
Voilà, alors je vais d'abord parler des arguments que nous oppose la direction de la poste, donc arguments qui viennent à la fois du niveau national, mais les mêmes arguments sont répétés au niveau régional. Et d'ailleurs, Monsieur Merlet, qui est directeur régional adjoint, a fait une interview sur France Bleu, Radio France Bleu, il y a très peu de temps, il y a 10 jours, je crois, où il a rappelé les mêmes choses. Donc, les arguments de la poste, c'est une diminution de la fréquentation, à peu près 50% depuis 2013, on va dire en 10 ans, un peu plus même de 50%. Et au jour d'aujourd'hui, eux nous disent qu'on est à environ 100 clients par jour. Les employés, eux, parlent de 160 clients par jour, ce qui est quand même un écart important. Donc voilà, ce sont des arguments essentiellement économiques. Les habitants de Poitiers, eux, de Poitiers Sud, ne comprennent pas. La première chose, ils disent, mais nous, quand on va à la poste, il y a toujours la queue, enfin une file d'attente. Et la semaine dernière, j'ai encore quelqu'un qui m'a envoyé des photos sur mon téléphone. La file d'attente dépasse même le cadre du bureau, puisque les gens font la queue, comme on dit, carrément dans la galerie marchande du Super U. Donc, régulièrement, les gens disent « Mais nous, quand on va au bureau de poste, on est obligé d'attendre longtemps. Donc, il y a du monde. Le deuxième argument, c'est les gens qui habitent à la périphérie, qui ont perdu leur bureau de poste et pour lesquels ces bureaux ont été remplacés par des relais. Alors, j'expliquerai tout à l'heure la différence, qui ne répondent absolument pas à la totalité des services dont ont besoin les gens. Donc, ce bureau de poste à Poitiers-Sud, finalement, draine les communes au sud de Poitiers, Saint-Benoît, Fontaine-le-Comte, Croutelle, Vouneuil-sous-Biard et Biard. Ces gens-là ne vont jamais en centre-ville lorsqu'ils ont besoin de faire une opération qu'ils ne peuvent pas faire dans leur relais poste et ils viennent à Poitiers-Sud. Donc, c'est un bureau qui, en fait, touche beaucoup plus largement la population bien au-delà de Poitiers-Sud.
Et puis, si on reste même concerné par Poitiers-Sud, il y a toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer en voiture.
Alors, j'ai reçu personnellement des mails de personnes disant « Mais moi, je suis aveugle. Je ne pourrais pas prendre le bus pour aller à la poste en centre-ville. » D'autres personnes âgées. Il y a, sur Poitiers-Sud, un foyer de personnes âgées. Ces personnes âgées viennent. C'est un foyer, ce n'est pas un EHPAD, hein, c'est un foyer, donc des personnes qui ont encore une certaine autonomie et qui vont venir à pied ou en voiture si certaines ont une voiture, mais qui vont venir au bureau de poste de Poitiers, Poitiers Libération, enfin avenue du 8 mai. Nous avons également sur Poitiers-Sud un centre de personnes qui ont un handicap mental, dépendant de l'UNAPI. Ce sont, et certains donc avec une certaine autonomie, vont aussi se déplacer dans ce bureau de poste. Toute cette population fragilisée, que ce soit par le handicap ou par l'âge, sont des gens qui ont leurs habitudes et qui ont là un service de proximité. Et ces gens-là ne se sentent pas d'aller en centre-ville.
Et alors, on peut peut-être justement expliquer la différence entre un bureau de poste et un simple point relais, parce qu'il n'y a pas tous les mêmes services. Hein.
Alors, en fait, il existe trois types même de points poste. Hein. J'emploie les mots qu'utilisent les employés de la poste. Voilà. Le bureau de poste, c'est le bureau qui offre tous les services de la poste, le courrier, les colis et également agence postale. Donc tout ce qui est en relation avec la banque postale. Juste pour dire qu'il y a quand même encore énormément et ce sont souvent même les personnes les plus fragiles qui ont des comptes à la banque postale. Hein. Donc ces bureaux de poste offrent tous les services. Ensuite, il existe ce qu'on appelle des agences postales communales. Là, c'est la mairie d'une commune rurale ou urbaine, comme à Poitiers, qui va ouvrir un service postal dans sa mairie ou son annexe. Hein. C'est ce qui se passe à Beljouanne. Il y a une annexe de la mairie qui offre un service postal. Ce service postal est assuré par des employés de la mairie, donc ce ne sont pas des employés de la poste. Et là, on a un service restreint, courrier essentiellement, colis à condition qu'il ne dépasse pas une certaine dimension. Ce sont des petits colis. Et puis, ces agences postales, certaines permettent de faire des opérations bancaires, mais c'est pareil, c'est avec une somme réduite. Et puis, le relais postal, le relais commerçant. C'est la troisième solution, c'est celle qui se développe le plus. On en trouve dans beaucoup de petites communes. C'est un commerçant qui va accepter d'offrir le service de la poste en plus de son commerce. Mais là encore, on est à minima.
Hein. C'est ce qui s'est passé au centre-ville de Poitiers, place Notre-Dame, quand le Carrefour Express a pris le relais à la place du bureau de poste.
Tout à fait. Tout à fait. Alors là, nous, on se demande. Alors, il est proposé, mais on met beaucoup de choses au conditionnel, hein, parce qu'il y a quelquefois des discours un peu contradictoires. Donc, apparemment, la direction de la poste voudrait remplacer le bureau de poste de Poitiers-Sud par un relais commerçant. La première question, c'est que nous, on se demande comment un commerçant pourra-t-il absorber plus de 100 clients par jour. C'est absolument impossible. Hein. Donc ça veut dire que obligatoirement les gens seront obligés de se déporter sur d'autres bureaux. C'est évident. Ensuite, Monsieur Merlet, qui a été interviewé il y a une dizaine de jours sur Radio France Bleu, disait qu'ils n'ont toujours pas recruté, enfin, ou en tout cas n'ont pas de commerçants pour l'instant, sachant qu'ils ont annoncé une fermeture du bureau de poste au 31 décembre. Donc on est dans une urgence et on ne sait toujours pas s'il y a un commerçant qui voudra vraiment prendre cette charge, ni même où. Est-ce qu'ils vont rester localement dans le bureau actuel ou pas? Et une dernière information, un membre du comité s'est adressé aux propriétaires des locaux en demandant « Mais est-ce que vous avez reçu un préavis de départ ?» Le propriétaire nous dit qu'il n'a rien reçu. Donc, vous voyez qu'on a
encore beaucoup de questionnements, d'incertitudes.
Voilà, d'incertitudes, de questionnements. Ça angoisse les gens. Monsieur Merlet, l'autre jour...
Est-ce qu'il vous a reçu ?
Non. Alors, nous avons reçu des réponses par courrier, là, très récemment. Nous avons reçu une réponse par l'intermédiaire de Sacha Houlier, le député, qui nous avait promis de nous soutenir en écrivant lui-même à M. Val, qui est le directeur national. Le directeur national lui a donc répondu. Donc, nous avons eu une réponse partielle. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. On veut fermer pour des raisons économiques que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et personne n'a accepté véritablement de nous recevoir. Voilà.
Eh ben nous, on vous a reçu. Merci beaucoup, Sylvie Bachelier, donc présidente du comité de quartier Vivre à Poitiers-Sud. Et donc, vous représentiez ce collectif qui se mobilise fortement pour éviter la fermeture de ce bureau de poste à Poitiers-Sud. Un grand merci d'être venu dans ces camps.
Eh bien, merci de diffuser cette information. Et nous allons continuer.
La mobilisation
continue. Tant que ce n'est pas fermé, on tient. Merci beaucoup à vous.
Demain, dans Séquence Midi, on parlera de l'accueil des élèves sourds au lycée Nelson Mandela et on parlera d'une bonne nouvelle du côté de la Poste, la réouverture de celui de Poitiers-Couronnerie, puisque effectivement, c'est un service important aussi dans tous les quartiers. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Et il est présenté par Yves.
Et oui, Anaïs, en ce lundi 18 novembre, je vous ai sélectionné quelques sorties à faire à Poitiers. Et on commence par l'Université de Poitiers qui organise, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une série d'événements proposant des axes de réflexion et des actions de sensibilisation autour des défis rencontrés par les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Cet événement est à destination des étudiants et du personnel de l'Université de Poitiers. L'objectif, c'est de travailler à créer un avenir professionnel où chaque individu a l'opportunité de s'épanouir, peu importe son parcours ou ses différences. C'est à partir donc d'aujourd'hui et ce jusqu'au vendredi, en commençant par une séance d'information sur les droits de la RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, de 12h à 12h30 à l'espace de la présidence de l'Université de Poitiers, donc c'est déjà fini malheureusement. Mais ce soir, au TAP Cinéma, nous avons également un autre événement. Donc, ça sera l'équipe du Poitiers Film Festival qui vous présentera le programme de sa 47e édition. Une sélection de. Il vous présentera la sélection du Poitiers Film Festival, les séances en famille, les grands invités. Vous saurez donc tout sur les rendez-vous à ne pas manquer du Poitiers Film Festival. L'événement est gratuit et sera suivi de la projection de Animal, le long métrage de fiction d'Emma Benestan qui sera à l'occasion présente. Donc vous pourrez aller la rencontrer à la suite de la projection.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve dès demain pour Espace Matin et on se quitte avec ce titre Docteur Balafon avec Innocent Kimpé.
regardez.